Europa Voice numéro 88. Et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël et Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
88 déjà, et eh bien, on va pas forcément parler de Brexit, mais on va parler de ce qui se passe en Grande-Bretagne, et c'est à Glasgow, c'est la COP26. Ça a été le talk of the town pendant un petit moment quand même, cette COP26. Alors, qu'est-ce qui en est sorti de cette COP26? Qu'a-t-on appris à la fois sur l'environnement, mais aussi sur les relations internationales? Il y a des choses intéressantes. Hein.
Oui, Christophe. Alors déjà, on est à la fin, hein, de cette COP26, hein, puisqu'elle se tient là depuis la fin octobre et jusqu'à aujourd'hui. Donc, on aura vraiment, j'allais dire, les déclarations finales et les tenants et les aboutissants de cette COP26 à l'issue de cette journée. Et puis, vous le disiez, on ne va pas parler de Brexit aujourd'hui, mais on a quand même une COP26 qui est placée sous la présidence britannique et qui se tient à Glasgow. Alors, on est maintenant habitué à ces grandes réunions internationales sur le climat. L'enjeu pour nous, hein, pour l'Europe, pour l'Union européenne, c'est vraiment de montrer que cette Union européenne, sous la présidence de la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a vraiment un niveau d'ambition jamais égalé, ou en tout cas un niveau d'ambition très élevé par rapport aux enjeux climatiques, parce que tout simplement, hein, rappelez-vous, hein, une des premières mesures qui avait été prise par la Commission européenne et sous l'impulsion, hein, de la présidente Ursula von der Leyen, c'était le pacte vert européen, justement, hein, pour que l'Europe soit à la pointe de ses engagements climatiques. Et donc, pour l'Union européenne, c'est vraiment, voilà, c'est montrer l'exemple sur la scène internationale et encourager, j'allais dire, les autres partenaires à s'aligner sur la proactivité et sur les ambitions européennes en matière de climat.
On a quand même peur que, un peu comme beaucoup d'autres conférences qui ont eu lieu avant, hein, les COP21, COP22, COP23, que ça prend quand même pas mal de temps à trouver une solution, à trouver des accords avec la planète entière. Et on a quand même peur que tout ça, ça accouche quand même d'une couleuvre.
Oui, alors effectivement, c'est un peu
direct, hein, mais bon, c'est un peu ça quand même.
Non, mais c'est Christophe, tout à fait. Hein, c'est toujours le problème de ces grandes réunions. Hein. Là, on parle de la COP, hein, mais c'est la même chose avec les G7, les G20, etc. Après, on a du point de vue de l'Union européenne de ce pacte vert, hein, encore une fois, des éléments assez tangibles. Hein. Par exemple, on sait que l'Union européenne va être le premier continent neutre pour le climat au monde, et on a des données chiffrées. On sait que l'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 90. Donc, on a des objectifs chiffrés. On sait aussi que 30% du budget de l'Union européenne et de programmes similaires vont être consacrés au soutien de l'action pour le climat, et que 40% est aussi un chiffre, un objectif en matière d'énergie renouvelable pour 2030. Donc effectivement, on ne sait jamais de quoi ces conférences internationales accoucheront. En tout cas, ce que moi je trouve par rapport aux conférences précédentes, c'est que l'Union européenne vient quand même avec une certaine crédibilité, en tout cas sous la présidence de von der Leyen, encore une fois, parce que c'est la suite logique des premiers engagements de cette nouvelle commission qui est assez récente, hein, Christophe. On l'avait couverte ensemble il y a quelques maintenant mois de cela. Donc oui, pour répondre à votre question, ça peut encore, la montagne peut accoucher d'une souris, c'est vrai, mais en tout cas, d'un point de vue là, peut-être purement aussi de dynamique politique, même de communication politique, d'image, on voit bien que l'Europe est un acteur bien placé pour engager avec elle des autres acteurs, parce que c'est aussi ça, à la différence peut-être d'autres conférences internationales, Christophe, par exemple le G20 ou le G7, c'est que sur ces COP, il faut qu'on ait un accord de tout le monde, hein, sur les engagements à réduire les émissions à effet de serre, sur la pollution, etc. Si par exemple des acteurs comme les États-Unis ou la Chine ne sont pas embarqués, forcément, vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, ça ne marchera pas. Donc on a aussi, et on le voit, hein, au niveau de l'Europe, le fait aussi que les États-Unis sont revenus à la table des négociations par rapport aux accords de Paris, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Donc oui, on ne sait pas de quoi on peut présager, mais on est plutôt, je dirais, dans une dynamique positive par rapport à ces quelques engagements chiffrés. Et puis, on a aussi surtout des partenaires, j'allais dire, extérieurs à l'Union européenne qui ont déjà fait un pas pour aussi s'aligner sur ces prérogatives de moyen et long terme par rapport aux enjeux environnementaux, que ce soit les États-Unis qui vont doubler leur contribution aux pays à revenus faibles et intermédiaires, que ce soit la Chine qui a annoncé la fin du financement de charbon à l'étranger, ou encore la Turquie qui a ratifié l'accord de Paris sur le climat. Donc vous voyez, on est dans une dynamique positive. Maintenant, on fera le bilan de cette COP26, j'espère, avant la COP27.
Et qu'est-ce qu'on peut dire des pays émergents et l'attitude peut-être d'un pays comme l'Inde, par exemple, qui, on a beaucoup critiqué l'Australie qui donnait un plan à 2050, mais l'Inde, ils ont mis tout sur le tapis vert pour 2070. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de pays comme l'Inde, justement, qui en fait, eh bien, ils se font tirer un petit peu quand même... ils se font un petit peu pousser pour arriver à une solution. 2070, c'est un peu un plan sur la comète quand même, il faut le dire ce qui est. Donc, est-ce que c'est aussi à ça un des problèmes de ces grandes réunions?
Encore une fois, sur ces grandes réunions, Christophe, et sur ces enjeux environnementaux, vous avez deux forces, deux positionnements qui s'affrontent. Vous avez d'un côté, comme vous l'avez dit, des pays émergents qui accèdent en décalé par rapport à d'autres pays qui font déjà partie du club des pays de l'OCDE ou des pays développés, qui accèdent à la croissance, aux nouvelles technologies, etc. Et donc, qui forcément vont vouloir profiter de ces moments de croissance et vont être peut-être amenés à plus polluer, mais tout simplement parce qu'au niveau du cycle, ils sont dans une phase dans laquelle était l'Europe ou dans laquelle étaient les pays développés il y a quelques années de cela. Donc, vous devez composer avec ça. Vous ne pouvez pas les contraindre, si vous voulez, alors qu'ils accèdent à peine au titre de ces pays émergents, vous ne pouvez pas les contraindre tout de suite à stopper tous ces développements. De l'autre côté, encore une fois, quand ça touche ces questions environnementales, il faut aussi qu'il y ait une réalité politique, hein, de la réelle politique, on en parle souvent dans notre podcast d'Europa Voice, c'est-à-dire que ça se joue en termes de marché. Je prends un exemple très simple qui va vous parler, c'est l'Australie a finalement très peu de pouvoir de pression en disant qu'il se retire ou que se retire pas des accords de Paris, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un marché de pollueurs potentiels d'une vingtaine de millions de personnes. Alors oui, il y a des activités polluantes, etc., mais ça va être restreint. Quand vous êtes sur des pays avec une population comme la Chine, comme l'Inde, où on parle de milliards de personnes, vous voyez tout de suite que vous avez besoin, encore une fois, ou les États-Unis, vous avez besoin que ces acteurs soient autour de la table, soient alignés avec vous. Donc, c'est ça qui va être, compliqué. C'est l'enjeu de ces négociations-là. C'est comment, sans être coercitive, l'Union européenne va pouvoir embarquer avec elle d'autres pays en développement ou récemment développés, justement pour que, à la fois, on puisse avoir une croissance, mais une croissance aussi qui se soucie d'objectifs environnementaux et d'objectifs de soutenabilité, de sustainability en anglais à long terme. C'est tout l'enjeu de ces questions-là, Christophe, et on l'a vu aussi dans les récents épisodes entre l'Union européenne et cette fois la Chine, que les politiques, par exemple, de boycott par rapport à ces questions de pollution, elles ne sont pas forcément efficaces. Donc, c'est vraiment comment est-ce que l'Union européenne va pouvoir mettre ses partenaires. L'exemple de l'Inde, c'est peut-être voir s'il peut y avoir un plan graduel pour réduire ses émissions à effet de serre ou en tout cas accélérer. Mais encore une fois, vous avez besoin d'une Europe qui est locomotive, qui montre l'exemple. Donc, pour l'instant, tout ça est placé sous de bons, en tout cas sous des auspices plutôt positifs.
Et l'Australie dans tout ça, parce qu'on sait que la visite de Scott Morrison a été plutôt entachée au départ avec la relation avec la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les sous-marins, etc. Qu'est-ce que l'Australie a promis sur cette COP26 et est-ce qu'on peut, entre guillemets, même y croire?
Alors, ce qui ressort de Scott Morrison et de cet épisode de la COP26, c'est plutôt d'abord un bilan qui n'est pas extrêmement positive. J'avais vu une analyse très pertinente qui disait qu'en fait, Scott Morrison, en allant à cette COP26 et en adoptant sa politique ou en affirmant les positions qu'il a affirmées pendant cette COP26, c'était à la fois affaibli sur le plan national, c'est-à-dire en Australie, mais aussi sur la scène internationale. Donc, il semblerait que chez des analystes de Canberra qui connaissent mieux que nous, Christophe, la politique nationale, que ce ne soit pas une bonne séquence politique pour Scott Morrison. Après, la grosse information qui ressort, c'est que dès le début de cette COP26, Scott Morrison a clairement dit a clairement dit que l'Australie continuerait à vendre du charbon pendant des décennies. Hein. C'est une citation que je cite. Hein,
ils ont même dit « si nous, on ne le vend pas, d'autres le vendront ».
Exactement, c'est le ministre des Ressources australien Keith Pitt qui a déclaré ça à ABC. Hein, ABC. Donc, vous voyez, il n'a pas déclaré ça à une petite chapelle pro-charbon dans les médias. Donc, c'est une position officielle. Donc, vous voyez, on est sur une position australienne pour l'instant qui ne semble pas forcément être en alignement avec les velléités de l'Union européenne. Et au-delà de ça, au-delà du fait de continuer à vendre du charbon, le ministre, toujours ce ministre des Ressources, a dit aussi qu'il a rejeté un accord qui visait à abandonner progressivement le charbon, ce combustible fossile, afin de limiter le réchauffement climatique. C'est-à-dire que non seulement ils ont affirmé qu'ils continueront à vendre du charbon, mais en plus de cela, même un accord de sortie progressive, hein, comme il peut y avoir des accords de sortie progressive du nucléaire, a été rejeté par l'Australie. Pour l'instant, encore une fois, on est... Alors, est-ce que c'est lié, Christophe, au contexte électoral à venir en Australie ? C'est-à-dire que sûrement des élections fédérales vont être appelées l'année prochaine, et donc que Scott Morrison, il doit ménager sa base électorale plutôt conservatrice, pro-charbon, je ne sais pas, mais en tout cas, on est sur une position australienne, j'allais dire, peut-être malheureusement, assez classique de soutien de l'industrie charbon, avec le risque, Christophe, que l'Australie perde encore un peu plus sa voix au chapitre lors de ces réunions internationales, parce qu'au même moment, alors effectivement, il y a eu l'épisode des sous-marins, mais on voit aussi que la France, par la visite de la vice-présidence Kamala Harris en France, est en train de se rabibocher avec la France, hein, Paris-Washington se rabiboche. Donc, je ne suis même pas sûr que l'épisode des sous-marins, alors c'est un autre débat, ait finalement renforcé l'alliance tripartite UK, États-Unis, Australie. Et j'ai plutôt l'impression que l'Australie est un peu laissée au banc maintenant de ces grands rendez-vous internationaux, surtout avec des positions aussi conservatrices qu'elle peut avoir sur le charbon.
Oui, tout à fait. Allez, on va parler maintenant de la situation en Europe et aux frontières de l'Europe et ce qui se passe aujourd'hui avec la Biélorussie. Situation compliquée, surtout quand on connaît le pédigré politique en Pologne également. On en a beaucoup parlé d'ailleurs dans le dernier épisode d'Europa Voice. On en est où, Nathanaël ? Parce qu'on sent qu'il y a énormément de migrants qui frappent à la porte des frontières polonaises, estoniennes, lituaniennes. Et ça a l'air d'être un petit peu quand même généré par la Biélorussie et peut-être une sous-main de Poutine derrière. C'est un peu ça. Quand même.
Alors pour répondre à votre question, Christophe, effectivement, on est dans une situation où on a des milliers de migrants qui sont massés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, donc en fait entre la frontière de la Biélorussie et de l'Union européenne. Et on a effectivement un contexte politique qui est extrêmement tendu pour deux raisons. D'abord, et c'était l'objet de notre dernier épisode d'Europa Voice, Christophe, c'était que on avait parlé des risques de polexit de la Pologne, donc de sortie de la Pologne de l'Union européenne. Et puis la deuxième raison, c'est que on sait que le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko est le responsable de cette crise migratoire à la frontière polono-biélorusse, donc à la frontière Union européenne. Biélorusse, puisque c'est lui-même qui a délivré des visas à des réfugiés et qui les a acheminés jusqu'à là. Ce sont des réfugiés principalement du Kurdistan irakien, d'Iran et de ces zones-là. Et donc, c'est vraiment, c'est pas une déclaration de guerre, mais c'est un geste politique extrêmement fort de la part du dictateur Loukachenko. Alors, pourquoi il a fait ça ? Tout simplement parce qu'il le conteste, ou en tout cas il réagit très fortement aux sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne l'été dernier sur les questions, j'allais dire, de droits humains et de droits fondamentaux en Biélorussie. Et donc c'est la réponse de Loukachenko à ces sanctions et à ces boycotts de l'Union européenne.
aujourd'hui, qu'est-ce que l'Europe peut faire? Parce qu'on sait que la Pologne, on l'a dit il y a quelques instants, la Pologne a quand même une position très dure avec l'Union européenne. Il y a même, comme vous le dites, des questions de sortie ou pas de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Europe peut avoir une... C'est quand même une de ses frontières. Donc, quelle influence l'Europe peut avoir? Parce qu'on a l'impression que ce problème, il va beaucoup plus loin que Biélorussie-Pologne. C'est vraiment bloc, ancien bloc de l'Est, URSS, Union soviétique et tout le côté russe, avec l'ancienne Europe. Ça, on sent que ça a quand même un poids de l'histoire là-dedans, quand même.
Oui, Christophe, alors comme souvent, vos remarques sont extrêmement pertinentes. Il y a deux niveaux, je dirais, d'enjeux dans cet épisode biélorusse. Il y a d'abord, encore une fois, la situation au Biélorusse et il y a l'instrumentalisation par Loukachenko de migrants d'une crise migratoire pour que l'Europe lève les sanctions et le reconnaisse, lui, Loukachenko, comme le seul dirigeant légitime en Biélorussie. Donc ça, c'est si on prend la petite focale pour analyser le problème. Et comme vous l'avez mentionné, Christophe, mentionné, il y a aussi, en fait, derrière ça, derrière Loukachenko, il y a Poutine, et il y a encore la velléité de Poutine et de la Russie d'avoir sous son influence cette partie de l'Union européenne pour encore une fois peser face à l'Union européenne. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que la Pologne est quand même est en tête en fait des pays. On parlait des pays en développement, est un pays développé maintenant. La Pologne et donc devrait fonctionner comme une locomotive pour d'autres pays d'Europe de l'Est dans l'Union européenne pour accélérer le développement. Et on voit bien que en faisant ça, en instrumentalisant lui-même Loukachenko, qui instrumentalise des migrants pour créer cette crise migratoire aux portes de l'Europe, on voit bien que Poutine essaye toujours de maintenir sous son giron une influence en Europe de l'Est. Donc c'est compliqué parce que à la fois l'Union européenne, elle peut réagir et considérer que c'est une crise simplement de migrants à sa frontière et adresser d'une certaine façon seulement le problème biélorusse. Mais de l'autre côté, si on veut vraiment résoudre cet épisode et qui peuvent devenir de plus en plus récurrents, là c'est l'instrumentalisation des crises migratoires, mais ça pourra être un chantage, je sais pas moi, à des échanges commerciaux plus tard, ça peut être fermer le robinet du gaz comme ça avait déjà eu lieu, Christophe vous en rappelez, les oléoducs entre la Russie et l'Union européenne pour des acheminements. Donc, en fait, c'est comment est-ce que l'Union européenne va être capable, plus que dans le court terme avec cette crise de migrants à ses frontières, de gérer la relation avec le frère russe, parce que encore une fois, il y a cette lutte d'influence. Et puis, faisons un rappel aussi, Christophe, c'est que l'Union européenne n'aura pas une quantité infinie d'occasions de montrer que ça peut être un allié de soutien aux pays de l'Est qui veulent sortir du giron soviétique ou du giron de la Russie. L'épisode ukrainien de 2014 avait déjà montré que l'Europe n'avait peut-être pas saisi l'opportunité d'ouvrir ses portes à d'autres pays qui souhaitaient un petit peu d'indépendance sur le front de l'Est. Donc, il n'est pas trop tard, mais l'Union européenne, si vous voulez, n'aura pas maintes occasions de montrer que c'est encore une fois un ensemble politique cohérent, capable d'adresser ces problèmes et de faire preuve de solidarité quand un pays comme ça est en danger. C'est d'une certaine manière, Christophe, si vous voulez, aussi ce qui s'est passé ou ce qui se passe à Lampedusa, c'est-à-dire que comment l'Union européenne est capable d'aider un pays pour que ce pays ne gère pas seul. Là, en l'occurrence, c'est aussi une crise migratoire, mais puisse y avoir une réponse européenne quand il y a un problème à ses portes.
Ouais, mais je vais faire un peu l'avocat du diable en disant que la Pologne, quand même, pendant un petit moment, a refusé l'aide, a refusé qu'on y regarde de trop près. On a un petit peu quand même fait pression sur les journalistes, sur les blogueurs, sur etc. en Pologne. Mais là, d'un seul coup, ça devient un problème international et la Pologne demande un peu d'aide à l'Union européenne. Donc, il y a quand même une ambivalence du rôle de la Pologne, là, aujourd'hui, dans cette Union européenne.
Oui, mais bien sûr, Christophe, il y a une ambivalence. Encore une fois, il a suffi d'un numéro d'Europa Voice pour qu'on parle de Polexit. La semaine dernière, ou il y a quelques semaines, on parlait de Polexit. Aujourd'hui, on parle de l'appel de la part de la Pologne pour que l'Union européenne l'aide. Et puis, ce n'est pas du tout caché. Hein. Là, j'ai sous les yeux une déclaration du Premier ministre polonais qui disait « Sceller la frontière polonaise relève de notre intérêt national, mais aujourd'hui, c'est la stabilité et la sécurité de l'Union européenne tout entière qui est en jeu. Donc on le voit bien, hein. On voit bien que il fait du chantage, mais il met dans la balance le fait que oui, il faut que cette frontière polonaise reste fermée hermétiquement à ces vagues d'immigration non contrôlées, mais qu'il en relève même d'un intérêt supérieur à celui de la Pologne, en l'occurrence l'Union européenne. Donc vous avez raison, Christophe, la Pologne a aussi de son côté mis à mal des fois la cohérence ou en tout cas les grandes orientations politiques décidées au niveau de l'Union européenne, mais c'est toujours le même débat. Si on ne veut pas se retrouver dans une Europe à deux vitesses ou dans une Europe des 6 ou des 9 versus une Europe plutôt de l'Est, du Sud, mais vraiment plutôt de l'Est qui de plus en plus va être sous la menace du frère russe, ben c'est aussi à l'Union européenne de trouver encore une fois des solutions collectives. Et puis à la présidente de la commission qui l'a fait, hein, d'ailleurs, qui Ursula von der Leyen, elle a appelé déjà tous les États membres à augmenter, à intensifier les sanctions vis-à-vis des autorités biélorusses. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde, Christophe, même si la Pologne, encore une fois, n'a pas toujours joué le jeu, c'est dans l'intérêt et de la Pologne et de l'Union européenne qu'il y ait une réponse de sortie de crise européenne à ce problème qui se passe aux frontières, encore une fois, de l'Union européenne.
Affaire à suivre. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.